revoir, c'est tout.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G, 101.5 FM, radio-g.fr et en DAB+. Aujourd'hui, 7e épisode de Rencontre avec Karim Jamet, coach mental pour principalement des joueurs et joueuses de poker. Bonjour Karim.
Salut Nico.
Comment ça va?
Écoute, ça va super. Hein.
Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui dans Rencontre. Karim, pour commencer, je te laisse nous présenter le lieu où tu me reçois aujourd'hui.
Eh ben là, on est à domicile, donc l'objectif c'est les 3 points et de proposer le meilleur podcast pour les supporters qui sont venus nous voir.
Voilà, la belle référence au football, dont je te sais fan en plus. Est-ce que c'est d'ici que tu travailles depuis ton salon?
Mon bureau est effectivement dans mon salon, hein, comme tu vois derrière moi.
Oui.
Beau bureau avec le PC, les enceintes, etc. Parce que effectivement, je travaille essentiellement online.
On va y revenir, mais avant de parler de essentiellement de travailler online, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi un coach mental?
Mon métier, c'est d'accompagner toutes les personnes qui travaillent, qui ont un métier professionnel, et de les accompagner à prendre du recul sur leur pratique. Des fois, c'est des gens qui viennent me voir soit parce qu'ils ont une problématique liée à leur métier, soit une demande de progression dans un domaine particulier, et pour qui c'est un peu flou. Et mon métier, c'est un peu de dégager ce brouillard, ce flou. Donc, en questionnant, en reformulant ce qu'ils vont me dire, et en essayant d'aller identifier leur fonctionnement et leur dysfonctionnement, ainsi que tous les éléments de connaissance d'eux-mêmes. Mon métier, c'est vraiment d'accompagner les personnes à mieux se connaître dans leur pratique.
Donc, c'est essentiellement un accompagnement professionnel.
Tout à fait. Néanmoins.
Néanmoins,
il y a très régulièrement des éléments personnels qui viennent aussi, puisque la personne, elle est la personne dans son métier, mais elle est aussi cette personne dans sa vie de tous les jours. Et les fonctionnements généralement qu'elle a dans son métier, elle les a aussi dans sa vie de tous les jours.
On vient te voir quand on a un souci en fait d'ordre professionnel, qu'on se pose des questions, c'est ça?
Tout à fait. En gros, la formation que j'ai eue, l'UCO à Angers, c'est... En fait, à la différence de la thérapie où les gens viennent voir un thérapeute, un psychologue, parce qu'ils ont envie de se découvrir personnellement. Je précise se découvrir parce que la plupart des gens, ils vont penser qu'aller en thérapie, c'est quand on a un problème. Mais en fait, finalement, c'est plus aller se découvrir qui on est et comment on est et comment on fonctionne. Et ben là, c'est pareil, mais par rapport à son métier. Et pour mieux, in fine, évoluer dans sa pratique et se sentir bien au travail.
Donc toi, t'accompagnes quel type de métier? Est-ce que t'accompagnes n'importe quel type de métier? Ou est-ce que t'as une préférence sur un type de métier en particulier? On parlait du poker tout à l'heure, juste avant, dès que tu travailles avec principalement des joueurs de poker.
En fait, je peux accompagner tout type de professionnel, peu importe le métier. Et effectivement, il se trouve que d'une passion, le poker, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des joueurs de poker. Moi-même étant joueur aussi, joueur pro et coach mental. Et en fait, il y a juste après mes études, j'ai eu l'occasion de partir à l'autre bout du monde, au Cambodge, pendant 1 an, parce que sur place, il y avait une entreprise Nutser, pour laquelle je travaille toujours, qui est un centre de formation de joueurs de poker. Donc, imaginons que c'est une matière à l'école, ou plutôt à l'université, qu'on apprend. Il y avait des joueurs là-bas sur place, que des Français. Donc pendant 3 mois, j'étais en stage là-bas pour découvrir l'accompagnement mental spécifique aux joueurs de poker. Et ensuite, ils m'ont fait un contrat. Et depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, je travaille pour cette structure. Je suis rentré en France il y a un peu plus d'un an. Et je fais ça 100% online avec des joueurs qui sont dans le monde entier.
Donc tu travailles exclusivement depuis ton PC?
Exactement.
Et tu les suis? Alors ça nécessite quoi? Ça consiste en quoi plutôt cet accompagnement?
Il y a plusieurs domaines. La première chose, des fois, c'est juste un joueur qui vient et qui... Parfois, c'est juste écouter mon métier, écouter la personne qui a besoin de s'exprimer. Et après, sur un domaine un peu plus technique, on va dire qu'il y a les 3 piliers de la performance, sport, alimentation, sommeil. Donc, c'est pouvoir ancrer des routines dans ces 3 domaines dans l'objectif d'avoir une bonne gestion de son énergie, qu'elle soit physique ou mentale, ainsi que lorsqu'ils vont jouer, ils vont pouvoir être en énergie afin de prendre les meilleures décisions possibles. Un autre domaine, c'est la régulation émotionnelle, puisque c'est un jeu dans lequel on va passer par des ascenseurs émotionnels constants. Il y a les bonnes cartes ou il n'y a pas les bonnes cartes parfois qui apparaissent. Du coup, faut constamment s'adapter suivant ce qui va se passer. Et parfois, on peut ressentir des émotions et fortes, colère, frustration, tristesse, etc. Et plutôt que de plonger dans ces émotions, avoir l'énergie nécessaire et les outils nécessaires pour être capable de les réguler. Donc, juste très simplement, c'est identifier comment ça se passe corporellement ou au niveau du discours interne, accepter et ensuite réguler, respirer, retourner par le corps, etc. Il y a aussi, pour apprendre à se connaître, à comment on aime apprendre. En fait, quelque part, le travail que je fais avec eux, c'est de créer la recette magique propre à chacun. Il n'y en a pas une miracle pour tout le monde. C'est vraiment propre à chaque joueur par rapport à qui il est, comment il s'est construit pour la performance et notamment aussi pour l'apprentissage. On apprend tous de manière différente. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent savoir comment c'est mieux d'apprendre pour eux.
Et alors, c'est quoi la méthodologie d'apprentissage, Karim ?
En fait, part du principe que chaque personne a une manière différente d'apprendre et c'est de pouvoir créer avec cette personne comment lui, il aime apprendre. Est-ce que c'est en écoutant ? Est-ce que c'est en faisant ? Est-ce que c'est en écrivant ? C'est aussi pouvoir ancrer des routines de révision régulière. Quand on apprend quelque chose, parfois, c'est pas acquis totalement. Donc, c'est de manière ludique, en faisant des jeux, il y a par exemple des caouts ou ce genre de choses, ou ce qu'on appelle des fiches en qui créent des petites interrogations. Donc, créer en place cette routine. Toujours dans cette logique d'imaginons que c'est une matière à l'université, comment on fait, nous, pour essayer d'accumuler le plus de connaissances dans cette matière ? Car plus on en aura, en tout cas, en l'occurrence dans le poker, plus on aura d'avantages sur nos adversaires. Voilà.
C'est un peu comme si t'étais un professeur qui leur apprenait la matière poker ?
Alors, moi, non. Moi, je suis pas le professeur. Ils ont un coach technique pour ça, entraîneur. Moi, je suis plutôt pour les accompagner à structurer cette méthode, pas à leur donner des informations descendantes, mais
à leur apprendre comment ils doivent apprendre, comment ils doivent faire.
Ça peut être bien pour eux d'apprendre.
Du coup, tu es en lien avec ce coach technique, cet entraîneur ?
Tout à fait, ouais. Il y a trois entraîneurs techniques chez Nutzer. Et évidemment, je suis en lien avec eux, soit par message, soit des fois on se voit tous les 15 jours, on discute, on fait un point sur les joueurs. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans leur analyse technique, eux, d'entraîneurs, avec le joueur en individuel ou parfois en collectif, ils vont identifier que sur certains aspects du poker, le joueur n'arrive pas à faire un truc précis. Et en fait, s'il n'arrive pas à le faire, ça peut, une hypothèse, c'est qu'il y a un blocage mental. C'est-à-dire que peut-être une peur, une croyance, peu importe. Et du coup, il peut exprimer au joueur de dire, écoute, tu peux aller en parler avec Karim.
Et là, toi, t'arrives et tu essayes de débloquer et de voir ce qui...
Moi, j'essaye pas parce que j'ai aucun pouvoir, en fait, qui est très important à savoir dans le coaching, c'est que mon métier, l'intention que j'ai, c'est d'accueillir ce que la personne va me communiquer. En l'occurrence, le joueur, quand il vient avec une problématique ou une demande. Et il faut surtout pas que je rentre dans le conseil. Mon métier, c'est tout sauf du conseil. Que je reste dans le questionnement. Je suis un peu un ingénieur en question. Parce que c'est au joueur de travailler dans l'introspection à réfléchir sur lui-même. Donc, si j'ai réussi ça, tant mieux. S'il me demande des conseils, je peux. Mais en vrai, la clé, c'est que le joueur puisse être invité à réfléchir.
Donc, toi, tu donnes pas de conseils, tu poses des questions et t'invites la personne à réfléchir. C'est ça un peu le coaching
Exactement.
Mental.
Hier, je te donne un exemple. Hier, j'avais un coaching avec un de mes joueurs. On discute et il me dit « Ouais, en ce moment, il a été off pendant 2 mois, il a profité de sa vie, etc. » Et puis là, il reprend, il est en période de perf, donc il va beaucoup, beaucoup jouer et s'entraîner. Et en fait, il est tellement dans sa période d'avant où il chillait et que c'était cool et qu'il était très content de chiller.
Il a du mal à reprendre.
En fait, on discute et à un moment, il me fait, non, mais en fait, Karim, en fait, je t'ai pas dit. Et il me dit, je m'en rends compte quand je te parle là. Il me fait, mais en fait, j'ai arrêté de faire ci, j'ai arrêté de faire ça. Il y avait plein de routines qu'il avait arrêtées. Et il finit par me dire, non, mais en fait, des fois, j'ai juste pas envie de jouer, j'ai juste envie d'être avec ma copine ou autre. Et en fait, son esprit était ailleurs. Mais jusqu'à ce qu'on ait cette conversation, que je lui pose des questions, que quand je lui pose des questions, il réfléchit. Et en fait, là, c'est là où ce qu'on appelle des AA moments. Et il se rend compte, en fait, à ce moment-là, que ah ouais, c'est ça, en fait, il y a le petit problème ou le petit truc, le petit hic.
Donc c'est ce que tu amènes à réfléchir, à penser par soi-même finalement.
C'est ça, qu'on appelle l'introspection.
Et toi, est-ce que toi-même, t'es suivi un peu comme les psys sont suivis par d'autres psys ? Est-ce que toi-même, tu vois du coup un coach mental pour échanger sur les situations que tu rencontres ?
C'est une super question parce que si une personne doit aller se faire accompagner, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'est hyper important de demander à la personne qui nous accompagne, est-ce que elle aussi est accompagnée? En l'occurrence, on appelle ça de la supervision. Et effectivement, moi, j'ai une coach que je vois tous les mois, je vais la voir jeudi prochain, qui est coach, donc superviseuse, je crois qu'on dit ça, superviseur, superviseuse. Tous les mois, je vais la voir pendant une heure et demie. Et à ce moment-là, c'est le moment pour moi de prendre du recul sur ma pratique, de pouvoir lui partager peut-être des difficultés, des réussites. Il y a un truc qui fait tilt, c'est quand je suis en coaching, des fois j'ai des pensées. Et j'ai des pensées qui vont aller totalement en dehors de ce que la personne me raconte, etc. Et ben ça peut être des voyants rouges à me dire « Ah tiens, j'ai pensé à ça pendant le coaching alors que c'était incohérent », de pouvoir partager ça en fait, tout simplement. Je reviens sur ce que je disais au départ, c'est hyper important, une personne qui est pas supervisée, à quel moment tu peux accompagner quelqu'un si tu prends pas du recul sur toi, sur ce que t'as dit, sur ce que t'as fait.
C'est prendre du recul sur sa pratique, dans n'importe quel métier, ça, c'est utile.
Exactement.
C'est pour ça que t'interviens, mais c'est aussi important que toi, tu sois aussi accompagné.
Clairement. Typiquement, tu vois, la dernière fois que ma coach, donc Blandine, que je salue si elle nous écoute, on parlait de l'intention et avec quelle intention je vais accompagner. Et typiquement, il y a des joueurs avec qui je m'entends super bien. Ça pourrait être des potes dans la vie, des amis. Et c'est important de reprendre le pas sur sa pratique. Et mon intention, c'est pas d'être ami avec eux et de créer cette relation-là. C'est d'avoir l'intention de les questionner par rapport à ce qu'ils me disent, tout en les écoutant, bien sûr. Mais voilà, garder cette intention de professionnel.
On va continuer la discussion, mais avant, on va marquer une pause musicale. Et Karim, tu as choisi pour nous une musique que je te laisse nous présenter.
C'est un groupe qui s'appelle Fatback Band, c'est un groupe disco-funk des années 70-80. Le son s'appelle Backstrolling. Quand tu m'as posé la question si je devais trouver un son, j'ai longuement réfléchi, parce que moi, la musique, j'adore ça, j'écoute de tout, c'est très éclectique. Beaucoup quand même tourné autour de la soul, pop, funk, hip-hop, etc. Et en fait, ce son-là, je l'ai découvert il y a très longtemps. C'est un pote qui m'avait créé une compile de hip-hop pour les danseurs. J'avais plein de potes danseurs et tout, il m'avait filé cette compile. Il y avait ce son-là dedans. En fait, ce son-là, tu le mets et tu le mets le matin
et t'as envie de danser,
t'as envie de t'enjailler, ça donne de la joie et ça donne aussi beaucoup d'énergie. Et voilà, hier, j'ai pensé à toi du coup parce que je me la suis mise et je faisais le ménage. Du coup, ça m'a donné l'énergie pour bien t'accueillir propre chez moi, tu vois, à domicile.
Eh ben écoute, on va laisser les auditeurs, les auditrices découvrir cette chanson et puis on revient juste après ça.
We'll be right back. Sur Radio G, 101.5 FM.
En compagnie de Karim Jamet, coach mental, et qui vient de nous partager sa musique, Backstroking de Fatback Band. Karim, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, tu disais que tu avais fait des études pour devenir coach mental à l'UCO. Mais alors, comment on devient coach mental? C'est quoi les études qu'il faut faire?
Alors, juste avant, c'est important de préciser qu'on met mental après coach, parce que la genèse, c'est le coach et l'entraîneur sportif, donc coach en anglais. Et ensuite, il y a eu le coaching, donc ce que j'ai appris à l'UCO, qui est venu, ça date des années 70 aux États-Unis. Ça vient du sport, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'un athlète qui n'arrivait pas à faire un mouvement technique, quel qu'il soit, c'est pas parce qu'il était nul, c'est parce qu'il y avait des parasites dans sa mentale qui l'empêchaient de le faire. Et du coup, ils ont mis coach mental pour les performeurs, les sportifs. Et donc, je reviens à répondre à ta question. Moi, j'ai été formé pour du coaching. D'où le fait de coaching pour tous les métiers. D'accord. Et après, mental, c'est vraiment, ils ont agité pour différencier l'entraîneur qui a créé le geste, l'entraînement, le mouvement dans le sport, au coach mental qui s'occupe plutôt de l'esprit. Et attends, c'était quoi déjà ta question?
Et ma question était, comment est-ce qu'on devient du coup coach?
Comment est-ce qu'on devient coach? peux pas le faire dès après le lycée. Faut avoir un peu d'expérience dans la vie, avoir pratiqué tout simplement d'autres métiers ou fait autre chose, avoir un peu de recul, non seulement sur toi, sur qui tu es. Un élément important, c'est avoir l'intention de se tourner vers l'autre, en fait, et se déconnecter de soi. Donc, hyper important d'être concentré sur, on nous apprend à nous concentrer sur ce qu'on nous dit, avoir une écoute attentive. Important aussi d'avoir eu de l'expérience avant, d'avoir la maturité nécessaire, d'avoir appris l'expérience de la vie dans le travail ou dans le personnel, donc avoir un certain âge, entre guillemets, dépasser 30 ans, avoir une certaine maturité. Comprendre aussi ce que c'est l'accompagnement, pas arriver comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu, je me souviens quand j'ai passé l'entretien pour intégrer le DU à l'UCO, moi j'arrivais avec mes grandes croyances, avec tout le domaine sportif, ouais, je veux accompagner, je veux, moi, tout l'aspect psychologique dans le sport et tout ça m'intéresse. Elle m'a arrêté tout de suite, elle fait, non, mais attends, l'accompagnement, c'est pas que ça, tu vas découvrir. En gros, on apprend pendant cette année à se découvrir un peu qui on est et on passe dans une sorte de machine à laver. Des fois, ça secoue un peu, ça remue. C'est pas facile, néanmoins ça fait du bien. À la fin, on en ressort, on est un peu propre et prêt à accompagner les autres.
Donc c'est un an de formation à l'UCO.
C'est ça.
Pour te permettre d'être diplômé et ensuite de pouvoir accompagner. Et donc la formation à l'UCO, Karim, ça se passe comment ?
Alors en fait, pendant un an, on a une semaine de cours par mois. Et à ce moment-là, on rencontre plein de professionnels qui sont coachs, des professionnels d'accompagnement, qui vont tous nous présenter des manières différentes d'accompagner, avec des process bien précis, écoute, reformulation, questionnement, comment apprendre ce qu'on appelle la questionnologie, comment trouver les bonnes questions, etc.
Donc on t'apprend à comment accompagner, à comment poser les bonnes questions, à comment formuler pendant un an, et au bout d'un an, t'es diplômé, tu peux partir faire ta life de coach.
C'est un peu plus complexe que ça, mais ouais, on nous apprend aussi à, comme je disais tout à l'heure, je parlais de supervision, donc on va faire des supervisions tous les mois. On va commencer à s'entraîner à accompagner en trouvant des personnes à accompagner. Moi, à l'époque, je me souviens, j'avais trouvé un photographe qui venait de construire son entreprise et qui était un peu perdu, qui savait pas comment faire. Une autre personne qui était dans un métier, mais qui en avait marre, limite un peu burn-out, et c'était ok, mais l'accompagner sur, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire après? Et en même temps, il faut payer ses factures, donc ça fait peur de partir de son travail, etc. Donc il y a ça. Et du coup, de toutes ces expériences de coaching que j'ai pu faire, il y a un mémoire à créer. Ce mémoire-là, moi, je l'ai tourné autour de l'alliance. Et l'alliance, en gros, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la personne que j'accompagne, elle se sente en confiance, elle se sente bien, et elle puisse s'exprimer avec moi. Donc, ça va être tout ce que je vais créer pour que, voilà, effectivement, elle soit en confiance. Typiquement, il y a des trucs banals, hein, être à l'heure, souriant, accueillir, et un truc très important, jamais juger. On peut avoir des pensées dans sa tête, on peut juger dans sa tête, mais jamais on les exprime de manière verbale ou non verbale. Au contraire, mon métier, c'est d'accueillir tout ce qui vient de la personne qui est en face de moi. Elle est là, c'est courageuse de venir, de parler de soi, de réfléchir sur soi, de se confier, c'est hyper courageux. Et du coup, moi, mon job, c'est d'accueillir ça avec les bras ouverts. Chaque personne est différente. Je pense que c'est le truc le plus important, c'est ça.
Et alors, avant d'en arriver à faire coach mental, tu l'as dit, tu as fait des expériences, tu as travaillé dans l'animation, dans le sport. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire « je vais faire coach mental » ?
Très rapidement, mon expérience avant d'être coach mental, j'ai posé un truc qui avait rien à voir. Au début, animateur, puis ensuite responsable d'animation. Et j'adorais ce que je faisais. Je faisais ça avec la mairie d'Angers. Et puis, pour différentes raisons sur lesquelles ce serait trop long de revenir dans cette émission, j'ai décidé de prendre une disponibilité de la fonction publique. Donc, je suis toujours lié, mais je peux revenir quand je veux, mais j'ai arrêté mon contrat.
C'est pendant un certain nombre d'années, la dispo?
C'est 7 ans, revenir, et après, on peut reprendre 3 ans.
Voilà. D'accord.
Donc, tous les 6 mois, je fais un courrier à la mairie en disant que je prolonge ma disponibilité. Bon. Bref, pour répondre à ta question, quand j'ai pris cette décision de prendre ma dispo, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Pendant le Covid, donc juste quelques années avant, puisque j'ai pris ma dispo en 2021, tout le monde était chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie, on n'a pas grand-chose à faire. Bah, moi, j'ai joué au poker, quoi. C'était déjà une passion que j'avais depuis quelques années. Et là, bah, je pouvais y consacrer beaucoup de temps parce que j'avais pas grand-chose à faire en télétravail.
Donné, quoi.
Mon travail, c'était de manager des gens et d'être auprès des enfants. Bon, bah là, quand t'es chez toi, le public est pas là. Donc bref, donc cette passion-là, j'ai commencé à beaucoup jouer, à m'y intéresser, mais à pas m'intéresser, à me former aussi, à me former à jeu. Et j'ai découvert qu'il y avait un aspect paix mentale. Il y avait les joueurs, les pros étaient accompagnés et il y a un mec qui faisait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Romain Nussmann, qui est devenu mon boss plus tard, c'est lui qui a créé notre sœur.
Okay.
Et lui, il faisait des podcasts, il était coach et j'ai trouvé ça passionnant et j'ai fait mais moi j'ai trop envie de faire ça. Et par chance, il se trouve que en me renseignant un petit peu, j'ai découvert qu'il y avait une formation de coach à Angers et voilà.
C'était tout bénef pour toi.
C'était tout bénef, exactement.
Est-ce que tu as trouvé un peu un lien entre ce que tu faisais auparavant, donc t'as dit responsable d'animation, et ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu trouves un lien entre les deux?
Ouais, super ta question.
Merci, je fais des superbes questions.
Normalement, c'est moi qui fais les questions, mais toi, tu pourrais être coach, Nico, t'es très fort.
Merci, mais je vais rester à l'animation radio, ça me va très très bien.
Le lien que j'y vois, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'accueil inconditionnel de l'autre. Quand tu travailles avec des enfants, ce sont pas des adultes. Et du coup, ils sont en train de se construire et ils font des conneries, ils font aussi des trucs extraordinaires, ils font rire. Et les voir grandir, les voir évoluer, je trouve ça trop kiffant. Et après, du coup, là, mon job, moi, c'est surtout des adultes ou des jeunes adultes. Donc, ils sont en train de grandir aussi ou qui grandissent dans leur métier. Et le lien que je ferais, c'est ça, c'est accueillir les gens qui évoluent. Avant, c'était les enfants et maintenant, c'est les adultes. Je dirais que le lien, il est là. Voilà.
Tu travailles principalement, donc on l'a dit, avec des joueurs de poker. Est-ce que le fait d'être coach te permet d'être meilleur en tant que joueur? Et inversement, est-ce que le fait d'être joueur te permet de mieux accompagner des gens en coaching?
Alors, je vais commencer par la première question. Tellement de fois, quand je coach un joueur, il va me raconter une réalité, une problématique liée à son jeu, etc. Et je me dis dans ma tête, mais c'est exactement pareil que pour moi. Donc, de les écouter... Parfois, en fait, je vais me rendre compte que bah moi j'ai la même difficulté et du coup en m'en rendant compte, ça me fait percuter et du coup ça me permet de prendre du recul. En écoutant, je prends moi-même du recul à froid plus tard sur ma pratique et du coup de pouvoir mieux évoluer. Ça c'est la première chose. Et à l'inverse par contre, est-ce que d'être joueur de poker, ça me permet de mieux les accompagner? Je dirais oui à 10% et non à 90%.
D'accord.
Parce que en fait, ma formation, elle est généraliste. Donc, encore une fois, je peux accompagner n'importe quel métier. On s'en fiche un peu de connaître les tenants et les aboutissants, les détails du métier. Ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est la personne elle-même et qui elle est. Et peu importe qu'elle soit joueuse de poker, joueur de foot, infirmier ou autre, ce qui est intéressant, c'est qui elle est, comment elle fonctionne et comment elle dysfonctionne. Donc, c'est bien parce qu'il y a des détails, je comprends tout ce qu'ils me disent et je vis la même chose. Oui. Néanmoins, non, l'important, c'est d'avoir le bon process d'accompagnement, d'être à l'écoute. Voilà.
Pour terminer cette rencontre, Karim, je te pose une question que je pose à tout le monde que j'aime beaucoup, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching?
Avant de se lancer, je dirais apprendre à savoir qui on est, savoir si on a vraiment envie de passer notre temps à écouter les autres, hein, d'avoir la patience, l'envie surtout. Surtout avoir envie d'être tourné vers les autres. Se poser ces questions-là, avoir fait un travail sur soi,
ouais.
Que ce soit en thérapie ou en coaching, en fait, avoir aussi découvert ce que c'est l'accompagnement. Et peut-être que ça peut créer l'envie de le faire soi-même ensuite.
Eh ben merci beaucoup Karim d'être venu aujourd'hui dans Rencontre.
Merci Nokio et je kiffe toujours tes petites émissions radio avec toi. Donc merci de m'avoir invité de nouveau.
Bah, avec grand plaisir, et puis j'invite les auditeurs et les auditrices aussi à aller écouter une précédente émission de C'est le week-end. La saison dernière, parce que tu étais invité. Et puis bah merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify. Rencontre marque une pause, il n'y aura pas d'épisode le jeudi 26 décembre, mais on se retrouve le jeudi 9 janvier à 13h pour une nouvelle rencontre. Et demain à 19h pour C'est le week-end avec le premier invité de l'année. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine et bonne fête de fin d'année, topette.
Just wanna tell you. 101.5 FM.